Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de La Relève, votre quinzomadaire radiophonique réservé aux nouveaux talents. Ce soir, on parlera de famille et d'amitié, mes invités sont écrivains. Mais avant de commencer, quels adolescents avez-vous été ? Ceux dont je vais vous parler maintenant sont livrés à eux-mêmes dans un monde où les adultes ont disparu. Nous sommes dans l'Angleterre des années 60 et pour une raison inconnue, une vague de suicides touche les adultes, laissant les adolescents livrés à eux-mêmes. Les auditeurs se demanderont peut-être ce que deviennent les enfants dans ce monde. Moi aussi, je me suis demandé, l'auteur nous l'expliquant ? Pas vraiment. Enfin, peu importe. Peu à peu, le monde sombre dans le chaos, l'activité économique s'arrête, le roi et la reine désertent Windsor, on est en Angleterre, et des bandes de jeunes prennent le pouvoir dans la rue, s'opposent violemment pour conquérir des territoires, retournent peu à peu à une vie sauvage vers le nord, toujours vers le nord, à cause des épidémies de retour. C'est la première fois qu'il est traduit en français ce roman, paru au milieu des années 60, interdit en Irlande pour nihilisme à l'époque. Si la survie des jeunes en milieu hostile, devant retrouver les gestes de leurs lointains ancêtres, peut trouver des échos pour tous ceux qui craignent un effondrement à venir, ce qui frappe surtout à la lecture de ce roman, c'est la différence de contexte entre les années 60 et aujourd'hui. Comparé à Orange Mécanique pour la violence, ce roman est plus frappant encore par le décalage entre la violence des bandes qui s'opposent dans la rue pour la survie et la grande immaturité affective des uns et des autres, et je dis bien les uns et les autres car ce sont surtout les garçons qui ne s'en sortent pas grandis. Au-delà de la dystopie, ce roman est un formidable portrait de groupe d'adolescents. Si vous vous y plongez, vous n'oublierez pas de sitôt Julia, Cathy, Estelle, Ernie, Charles et Robert. Ça s'appelle Only Lovers Left Alive, ça me permet de parler en anglais et ça j'aime toujours. C'est signé Dave Wallis, c'est traduit par Samuel Svez et c'est aux éditions Sonatine. Après cette chronique épique, bonjour Guillaume Collet. Vous publiez aux éditions Christian Bourgois Les Mains Pleines, votre deuxième roman après Les Yeux de Travers. Quant à vous, Elliot Ruffel, bonsoir.
Bonsoir.
Votre premier roman s'appelle Après ça, c'est publié aux éditions de l'Olivier. Et on en profite ce soir pour saluer Olivier Cohen et Jean Materne, deux très grands éditeurs français. Alors, j'ai découvert que vous aviez tous les deux un point commun, Saint-Étienne.
Ouais, il me semble.
Ça vous réjouit.
On vient de le découvrir.
Vous n'étiez jamais croisé ?
Non, jamais. C'est ce qu'on était en train de se dire.
Donc, il n'y a pas une école Saint-Étienne ?
Ben... bientôt, à venir, elle commence tout juste.
Vous venez de la commencer. Pour résumer, les mains pleines, ça narre plutôt l'histoire d'un jeune homme qui doit aller s'occuper de ses grands-parents qu'il ne connaît pas vraiment et d'où découvre... Allez-y, je vous laisse continuer l'histoire, le résumé. Il découvre peu à peu qu'ils sont en train de perdre pied.
Oui, c'est un roman très... C'est un petit-fils qui se retrouve face à son grand-père, sa grand-mère, et ce sont deux personnes qui demandent de l'aide. Et tout le roman, c'est un peu comme une mission de sauvetage qui va dégénérer un peu en mission de survie. Parce qu'il s'avère que le grand-père et la grand-mère sont en train de perdre la tête. Ça, on y reviendra plus tard, mais ils sont en train de sombrer dans une folie mal définie. Et à partir de là se pose toute la question de venir en aide à des gens qui, tout en réclamant de l'aide, ne veulent pas d'aide et partent dans un autre monde, comme dans un monde parallèle, par leur folie.
Ils sont ensemble, mais enfin, ils vivent dans la même temporalité, mais ils ne seront plus ensemble.
C'est un peu ça.
On peut dire ça comme ça. Comment est née l'idée d'écrire un roman pareil ? Vous avez été confronté à la situation ?
Oui.
Enfin, peut-être pas exactement la même, mais quelque chose de proche ?
Quelque chose d'assez proche, ça a été... il se trouve que mon contexte familial a fait que moi et d'autres membres de ma famille, mais moi en particulier, j'ai dû m'occuper de deux de mes grands-parents. Des grands-parents qui étaient assez isolés et isolés de la famille pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'ils étaient plus riches. Que cette richesse a toujours créé une sorte de distance entre eux et le reste de la famille. C'était les gens les plus riches. C'est des choses qui se savent dans une famille. On sait qu'il est le plus riche. À cela peut venir tout un chapelet un peu de reproches aussi. Finalement, il est assez partagé, pas assez partagé.
En général, le riche, il partage jamais assez.
et c'est des gens, bon voilà, quand on est petit-fils, on grandit comme ça avec un historique et soudainement, ces gens-là, on dit qu'ils n'ont jamais manqué de rien. Ben, finalement, il faut aller les aider, il faut rentrer dans la maison. Et c'est là que ça devient plus compliqué, la question de l'aide. Donc moi, j'ai été confronté à ça, c'est une période de ma vie qui a duré à peu près 7 ans. Donc ça a été assez long, on est passé par plein d'étapes. Encore une fois, moi, je n'étais pas tout seul, mais comme souvent quand je stresse, je prends des notes, ce qui me permet de survivre la première étape de violence. Et quand les choses se sont un peu plus tassées, la relecture de ces notes, ça a un peu été le point de départ, de se dire... Ah, il y a un travail littéraire possible, je vais pouvoir l'investir pour essayer de créer quelque chose dedans.
Vous parlez de violence.
Oui, parce que c'est des violences psychologiques et
Psychologique.
psychiques, c'est pas...
C'est quoi? C'est la relation humaine qui est violente?
Bah, c'est de voir des gens mourir, c'est pas toujours simple. Mais
Oui.
pas mourir, mais je veux dire des gens devenir fous, puis soudainement vous êtes confronté à plein de choses, c'est la fin de vie, c'est la vieillesse, c'est la folie, c'est la déchéance, c'est quand vous devez prendre les clés de votre grand-père qui est un homme qui toute sa vie a conduit des grosses voitures puissantes et que vous, qui avez raté 4 fois votre permis, vous décidez de lui prendre ses clés en disant bah maintenant il conduira plus, mais on n'en a pas discuté ensemble. Il y a une sorte de violence un peu comme ça, de même de commencer à choisir les vêtements des gens, choisir ce qu'ils vont manger. Encore une fois, ça a été des gens très très indépendants. Donc en fait, c'est rentrer dans une
La violence, elle est
intimité.
dans les deux sens, en fait.
En fait, on est obligé d'être violent avec eux pour leur venir en aide. Et c'est un double mouvement qui est toujours très compliqué dans l'aide quand on porte une aide. C'est qu'à dire, ça se fait par effraction un peu.
Alors justement, aujourd'hui, beaucoup de textes sont des témoignages. On reproche même parfois à la littérature, enfin en tout cas à la rentrée littéraire, d'être trop un étalage de témoignages personnels. Pourquoi avoir choisi la forme de la fiction et pas avoir mis dessus, enfin je sais pas, raconter, pas avoir appelé ça moi et ma grand-mère et mon grand-père, moi et mes grands-parents? Vous étiez trop proche, vous aviez besoin de le mettre à distance?
Oui, et j'ai besoin de continuer. Je pense que mon envie de chercher, de me trouver en tant qu'auteur, de trouver une langue est plus forte que mon envie de témoigner de ce qui s'est passé à mes grands-parents. Donc là, j'ai eu accès à une matière assez palpable dans mon parcours de vie, mais il a fallu que je la passe à la moulinette entre guillemets, pardon, de mes obsessions littéraires qui vont être un peu l'urgence, la rapidité, le fait de décrire les émotions comme des sensations. Et d'avoir un travail formel visible en tout cas pour le lecteur et finalement en fait cette masse émotionnelle de prise de notes c'était un premier socle vraiment adéquat pour commencer après à retravailler derrière.
Il y avait aussi la volonté de créer peut-être une histoire universelle. Les personnages n'ont pas de nom, n'ont pas de prénom. Ils s'appellent grande-mère, oui, pardon, grande-mère, grand-père. J'ai oublié le nom du narrateur. Je crois qu'il n'en a pas. Hein.
Petit-fils.
Petit-fils, oui, voilà. Avec en fin de chapitre, vous faites des fiches pour les présenter. C'est pas, on les voit pas. Il y a à la fois un texte qui est très physique ou qui raconte les mouvements des uns des autres, des actions. Et puis ces fiches, ça, c'est le travail formel. C'est ce que vous appelez le travail formel.
Oui, le nom en fait m'est venu. J'ai paradoxalement, même si je m'exprime en décidant d'écrire un livre, j'ai très très peur de dire des conneries ou de
Non, du tout.
parler. Oui, bah, de facto. Donc en fait, j'ai essayé de réduire au plus petit dénominateur commun où je vais pas me tromper. Et en fait, en effet, appeler grand-père. Ne pas leur donner de prénom qui allait apporter finalement tout un historique derrière ou trop de vécu, je trouvais ça pertinent. Et dans l'écriture, j'ai pensé à des grands totems, des grandes figures anciennes. Et finalement, on est tous le petit-fils de quelqu'un et on est tous une sorte de. Et on a tous des figures comme ça qui planent au-dessus de nous, qui sont des grands-pères, des grandes mères.
Mais allez-y, allez-y.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que aussi j'ai décidé de faire un roman très resserré, très enfermé, un huis clos. Et en fait, comme mon personnage de petit-fils n'existe pas en dehors de la maison, en présence de ses grands-parents, il ne peut être que petit-fils. C'était aussi une manière de montrer à quel point on est enfermé dans la famille, c'est-à-dire que lui, même son nom, c'est né que petit-fils. Il n'a pas d'autre identité que celle de petit-fils.
Est-ce que vous avez rencontré vos lecteurs, j'imagine vous êtes allé dans les librairies, vous avez rencontré les lecteurs. Est-ce que justement, si les gens viennent vous voir en vous confiant leurs histoires, peut-être même parfois de façon gênante, ou est-ce que ça crée un tel sentiment d'universalité que vous sentez que vous avez touché quelque chose
Il y a des réactions très diverses, mais c'est un livre qui fait plus de, comment dire, qui trouve plus son écho à des gens qui ont traversé ça. Si la situation est en cours, si vous êtes en train de prendre la tutelle de vos grands-parents et tout ça, je ne sais pas si c'est le livre qui va vous faire du bien, honnêtement.
C'est le livre à offrir à ses grands-parents à Noël.
Ah, ça dépend de l'humour de vos grands-parents, honnêtement. Si c'est des gens assez qui ont de l'humour, il faut y aller complètement. Mais oui, après, je vois aussi que je m'adresse, et c'est peut-être aussi la distance que j'ai, parce que moi, c'est mes grands-parents, c'est pas mes parents. Donc finalement, de parler de la fin de vie, de la dégénérescence mentale, des choses qui nous attendent tous à plus ou moins long terme. Ça peut inquiéter, et ça peut inquiéter en effet certains lecteurs. Et d'un autre sens, je vois que c'est des situations très très communes que beaucoup de gens vivent. Donc en effet, j'ai plein d'anecdotes sur... j'ai recueilli plein d'anecdotes sur comment ça se passe dans les familles, quand il faut s'occuper d'un couple ou d'une personne, et avec toutes les angoisses qui vont avec.
Le jeune homme qui vous ressemble peut-être, qui est en tout cas le narrateur et cascadeur de cinéma, moi je me suis demandé ce qui vous intéressait, c'est que c'est quelqu'un qui normalement doit bouger beaucoup, qui là est enfermé, qui se retrouve avec des gens qui eux-mêmes ne bougent plus beaucoup. Pourquoi avoir fait un cascadeur ? Je me demande encore pourquoi, mais peut-être qu'il n'y a pas de raison. Hein.
Non, pour plusieurs choses, parce que là, en fait, on y arrive par plein d'aspects. Déjà, quand j'ai commencé à me dire, ça va être mon sujet, je vais travailler dessus, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, ça va être casse-gueule. J'ai vraiment eu ce mot en tête, ça va être casse-gueule. Donc, je me suis dit, c'est qui passe les situations casse-gueule ? C'est forcément un cascadeur. Ça, je me suis dit, ça va être mon personnage. Puis plus tard, en travaillant, je me suis rendu compte que c'était un huis clos, qu'on était quand même dans un intérieur bourgeois avec des gens qui deviennent un peu fous. C'est un peu statique. Mon premier roman, c'était un étudiant endetté qui traversait la ville. Donc j'étais dans une forme un peu plus mouvante. Là, j'étais dans une forme plus enfermée. Et finalement, ça, c'est joyeux quand ça arrive. 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, je me dis, mais en fait, j'ai choisi que c'était un cascadeur. Il va pouvoir inventer des cascades pour un peu s'échapper et même tout faire péter en fait dans cet intérieur trop sage. Donc là où la figure de cascadeur marche un peu. Puis j'aime bien ce personnage, quelqu'un qui peut se prendre des portes, mais c'est pas grave, c'est pour de faux. C'est des explosions, mais c'est pas grave. Et c'est un peu ce qui est rassurant dans les fictions. C'est que ça tout explose et c'est pas vrai.
Vous-même, vous vous sentiez enfermé dans votre livre ? Vous aviez peur en tout cas de vous sentir enfermé dans votre livre ?
En tout cas, quand on se retrouve dans une situation comme ça et qu'on se retrouve à passer beaucoup de temps avec deux personnes qui ne savent plus quel jour on est, qui ont du mal à se nourrir, on commence à vivre...
Qui racontent leurs clés, qui...
On commence à vivre une sorte d'enfermement. Et en fait, moi, il y a des moments, à force de passer du temps avec mes grands-parents, je me sentais plus du côté de mes grands-parents que des autres personnes avec qui j'allais demander de l'aide. Moi, j'étais la courroie de transmission pour aller discuter avec des assistantes sociales, des médecins. Mais les médecins, ils sont là, ils sont très occupés, ils viennent que peu de temps et parfois ils comprennent pas la logique. Et moi, je leur dis, non, vous comprenez pas. Bien sûr que ma grand-mère, elle va râler parce que moi, je sais qu'elle a ses intrus qui sont des fausses personnes qui viennent dans sa tête, qui viennent. Je commence à. Ils m'ont un peu emmené dans leur univers aussi. Enfin, ça a été un voyage avec eux dans un univers très très anxiogène.
On en parlera après, mais Elliot Ruffel, vous aussi, vos personnages sont enfermés.
Enfermé, je sais pas.
Enfermé
en tout cas,
dans une ville, en tout cas.
Oui, dans une ville. C'est peut-être pas un huis clos à l'échelle
du.
Ouais, mais c'est peut-être pas un huis clos à proprement parler à l'échelle d'une maison, mais effectivement, ils errent quand même dans cette ville qui est au bord de l'eau, donc c'est, je dirais, un grand terrain de jeu quand même. Donc, mais oui, ils sont enfermés, ou en tout cas, c'est un bout de ce pays, c'est un bout de territoire qui est coincé, et le seul moyen d'en partir, c'est de faire demi-tour.
La pire cascade dans votre livre, je reviens à vous Guillaume Collet, c'est de vivre avec ses grands-parents. C'est le moment où on a le plus peur pour votre héros, c'est le moment où il doit conduire la voiture de son grand-père, où il est en voiture avec son grand-père qui, on comprend, doit rouler à 20 à l'heure. Et en même temps, c'est presque pire que les cascades qu'il décrit.
Oui, Non, mais après, ça, c'était une vraie situation. Vous voyez, comme je vous ai dit, je pense que quand on est un petit enfant, les grands-parents, c'est déjà des personnages de fiction parce qu'on vous a raconté leur vie plus que vous les avez vus. Donc déjà, c'est un peu mythifié. Donc moi, on m'a toujours dit que mon grand-père, il conduisait super bien, il avait des grandes voitures, il conduisait sous.
On n'a pas envie d'aller à la boulangerie avec lui.
Mais là, je me suis retrouvé dans une situation... C'est un peu drôle, cette scène. Oui, où en fait, pour situer, le petit-fils n'a pas encore pris conscience de l'ampleur
du problème
vis-à-vis de son grand-père. Et en fait, il est question d'aller acheter du pain. Et du coup, de manière machinale, parce qu'il n'a jamais fait autre chose dans toute sa vie, il monte avec son grand-père et c'est son grand-père qui conduit. Mais le grand-père, il est complètement cramé. En fait, il se rend compte qu'en fait, il conduit à 10 km/h, quasiment en contresens, et que c'est comme ça qu'il va acheter du pain, peut-être depuis 6 mois. Et moi, qui a été dans cette... Donc pas dans le roman, mais qui a été dans cette situation, je me suis vraiment dit que ce serait vraiment très débile de mourir comme ça, mais ça peut arriver. Et donc, en fait, c'est là que j'ai pris conscience du danger de la famille, de manière très concrète. Et comme... Voilà, il faut, ça paraît bête comme métaphore, mais il faut sortir un peu des schémas que la famille vous impose, parce que par moments, ça devient vraiment dangereux, en fait. Donc, rester croire qu'il faut préserver les familles et les décors qu'ils ont imposés, donc c'est-à-dire garder un homme fort comme le grand-père qui a le droit de conduire sa voiture, des intérieurs bourgeois où tout va bien, parce que comme c'est riche, on se dit que tout va bien et qu'on ignore la maladie, c'est très dangereux, c'est une cascade assez périlleuse.
Le personnage principal, ça sera mieux dans cet ordre-là, de votre livre, c'est la maison, non ?
En tout cas, la maison incarne quelque chose. Pour moi, elle incarne une part de cet héritage. Elle incarne une part aussi du... Mais tant que la maison va bien, tout va bien. Alors, rien ne va bien à l'intérieur, hein, en fait. Les meubles, rien n'est renversé. Toutes les explosions qu'il y a eu, c'est des explosions fictives dans la tête du personnage qui est cascadeur. Donc, en fait, je trouve que la maison, elle incarne en tout cas un décor. Et je trouve que quand on est de ma génération, on arrive et on se pose toujours la question de qu'est-ce qu'on veut préserver. Et en fait, il y a ces décors autour de nous, et c'est une question qu'on peut se poser à plein d'endroits. Est-ce que les centres-villes doivent plus bouger ? Est-ce qu'il faut préserver les façades ? Est-ce qu'on doit faire semblant que rien ne bouge, alors qu'en fait, c'est pas vrai, tout bouge ? Mais on peut faire semblant que rien ne va bouger, que c'est des décors qu'il faut garder à l'infini. C'est dans ce sens-là où la maison est peut-être comme une sorte de personnage, elle incarne un poids.
Elle incarne aussi ce dont vous avez évoqué tout à l'heure, qui est l'inégalité sociale, hein, entre les uns et les autres. Et à un moment, petit-fils, il note que la taille du tapis d'un des deux salons, parce que si je me souviens bien, il y a deux salons, fait la taille de son appartement à lui. J'exagère un peu, mais...
Oui, mais parce que...
Mais c'est très parlant comme métaphore.
En fait, moi, je me suis retrouvé dans une situation où je tentais de vivre de l'écriture. Je vivais encore à Paris, pas encore à Saint-Étienne, la plus belle ville du monde. Et forcément, j'étais à une sorte de précaire volontaire, hein, mais parce que je voulais faire un métier artistique. Et en fait, je me suis retrouvé à aider des gens qui, en effet, n'avaient pas le même niveau de vie que moi. Et ce qui provoque... Je tenais à ce que ça soit présent, cette différence de classe sociale au sein d'une même famille, parce qu'en fait, on a tendance à prendre que les familles n'ont pas de variation. Et pour moi, ça pose. Ça installe beaucoup de questions pour des gens. Moi, je me suis demandé est-ce qu'un jour j'aurai autant d'argent que mon grand-père ? Est-ce que je veux gagner autant d'argent que mon grand-père ? Ou est-ce que je l'utiliserai comme ça ? Est-ce que j'ai l'impression que je vais avoir autant de chance que lui, qui a travaillé toute sa vie, une grande partie pendant les 30 Glorieuses ? Voilà, c'est un peu cette tension que ça installe.
J'imagine que c'est une question que se posent beaucoup de gens de votre génération. Ça vous traverse, Elliot Ruffel, même si c'est pas trop, pour le coup, c'est pas trop dans votre livre.
De comment on va gagner de l'argent, de comment on va vivre de l'écriture.
Ça t'intéresse tout le monde, tu vois. Non, mais comment la question des générations, de la jeunesse d'aujourd'hui par rapport à des grands-parents qui sont souvent plus, en tout cas, plus fortunés. Peut-être pas toujours, mais souvent.
Oui, après, c'est sûrement la question quand on fait des métiers créatifs, c'est surtout de comment on va en vivre et c'est surtout, là, ça a l'air d'être le cas, mais de comment on accepte de peut-être gagner moins et de faire un métier qui nous plaît, comparé à peut-être des grands-parents qui ont fait des métiers qui leur plaisaient pas, mais qui ont gagné peut-être beaucoup d'argent, plus d'argent que des travaux d'écriture ou autre.
On n'aurait rien dit de votre livre, Guillaume Collet, Guillaume Collet, c'est bien ça, sans avoir parlé du style. Moi, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de sentiments, à part un mot qui revient toujours, c'est colère. Colère est très présente.
Bah, c'est un super sentiment. Non, mais c'était... oui.
Il y a quand même une volonté d'un texte d'où vous avez retiré les sentiments, j'imagine. C'est pas un hasard, vous l'avez poncé.
Oui, j'ai plutôt cherché à me rapprocher de ce sentiment d'être à la fois piégé, mais pour moi, c'était donner des variations à la colère, donner des nuances à la colère. Et je pense qu'on peut... Il y a des gens qui incarnent des choses, mais puisque c'est la famille, il faut y aller quand même. Et c'est à la fois... tout ça, c'est une tentative de liberté et d'essayer de prendre ses distances avec ce qu'on vous impose. Le grand-père, il a trois voitures, c'est honteux de vivre comme ça, mais c'est pas grave, faut l'aider quand même. Parce que là, il est dans une situation où il sait même plus quel jour on est, il n'arrive pas à mettre ses chaussures, mais en fait, il a une vie qui vous plaît pas, vous plaît moi encore moins aujourd'hui parce que je suis plus un petit-fils, mais je suis un petit-fils adulte. Donc en fait, la colère, c'est aussi une façon de s'affirmer, de dire avoir des relations avec les générations autres, mais par la colère, ça marche aussi très bien. On n'est pas obligé que de les aimer. C'était pour un peu en réaction à ne pas être que dans l'amour, dans la douceur, dans la compréhension.
Pas dans un conte de Noël.
Et pour moi, le rapport entre les générations peut aussi très bien se faire par la colère. Si on l'explore, si on comprend toutes les nuances qu'elle habite, c'est, sans tomber dans un truc en effet de brûler tous les vieux pour dire des choses horribles, mais
on ne le recommande pas, hein,
non,
le recommande
mais pas. En fait c'est pour installer un conflit et pour dire que je trouve que c'est assez sain de se dire que c'est il y a de quoi vraiment être en colère contre d'autres générations, quoi. Mais je pense que les plus jeunes seront en colère contre la mienne aussi.
La colère est peut-être l'ultime preuve de l'amour. Voilà, c'était Tied Up Right Now, Parcel. C'est toujours aussi bon en anglais. Ah, il est bon. C'est toujours La Relève. On est toujours avec Guillaume Collet pour Les Mains Pleines aux éditions Bourgois et Eliott Ruffel après ça aux éditions de l'Olivier. Alors, vu comment j'étais minable tout à l'heure pour essayer de résumer le livre de Guillaume. Et j'ai truffé, je vais vous demander de le faire vous-même.
Je ne suis pas sûr que je sois le plus doué.
Bon, alors je vais essayer de le faire.
Généralement, vous pouvez essayer. Je compléterai si je vois que c'est...
Vous jetterez une bouée puisqu'on est au bord de la mer. C'est l'été, ça on est en été. Ça parle de deux ados, Lou et Max, qui vivent dans une ville normande. En tout cas, il me semble qu'elle est en Normandie, en bord de mer.
Ouais.
On est dans l'errance nocturne un peu alcoolisée, plus que dans l'été solitaire et sportif.
Ouais, plutôt dans la bière. On est dans de la canette.
Plutôt dans de la bière. Et puis la nuit est tard. Est-ce qu'ils se trouvent d'abord, ces deux personnages, parce qu'ils ne sont pas dans la moyenne ?
Pas dans la moyenne, je ne sais pas, mais en tout cas, ils se trouvent un terrain commun, je ne sais pas si c'est un goût pour la violence, mais en tout cas, tout de suite, Lou, quand il rencontre Max, il comprend qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui a infusé en Max, et je crois que c'est sur cette expérience de la violence, dont on parlera peut-être plus tard, mais cette expérience commune de la violence à des moments différents, à des échelles différentes, qui va les rapprocher quelque part.
Comment vous les présenteriez l'un et l'autre ?
Pour moi, ils font un duo, donc c'est difficile de les présenter séparément.
C'est vrai que c'est difficile, mais
je crois que même en les écrivant, je les confondais. Enfin, ils ont tous les deux leur quand même des vécus et des histoires très différentes, mais je crois qu'ils existent très fortement en tant que duo. Donc, je dirais que c'est quand même un peu deux loups solitaires qui aiment bien errer la nuit et qui ont aussi du mal à se mélanger aux autres, quoi.
C'était ce que vous lui racontez, l'espèce de fusion de l'adolescence, parce que je ne sais pas si je l'ai dit, j'oublie, je note pas tout ce que je dis malheureusement. Ils sont encore au lycée, ils sont à la fin du lycée, ils devraient être en première terminale.
C'est leur dernier été avant de, je vais dire, basculer dans l'âge adulte, mais je ne suis pas sûr qu'à 18 ans et en passant dans les études supérieures, on bascule vraiment dans l'âge adulte. Mais en tout cas, c'est l'été après leur terminale, donc c'est leur dernier été commun parce qu'on sait et on comprend que Lou va partir en fait pour les études supérieures.
Alors, en riant, quand on a lancé la musique, je vous ai dit, il y a quelque chose que je... Enfin, je ne suis pas sûr d'avoir compris, je vais le dire à tout le monde, j'assume. En refermant le livre, je l'ai refermé en me disant, c'était deux garçons. En y repensant, je me suis dit que ces deux prénoms sont très ambivalents.
Ouais.
C'est quelque chose que vous avez travaillé volontairement, ça ?
Oui, tout à l'heure, on parlait de ne pas nommer les gens, en fait, de les nommer comme Guillaume l'a fait. Tu as donné des noms qui sont des noms de fonction, en fait. Et moi, pour le coup, c'est toujours une grande difficulté de nommer des personnages, parce qu'à partir du moment où on les nomme, on fait appel à tout un... Je ne dirais pas une histoire du prénom, mais en fait, on les situe socialement, politiquement, économiquement parlant. Donc, choisir des prénoms neutres, Max et Lou, c'était aussi quelque part une tentative de désamorcer un imaginaire qui pourrait coexister, enfin, en tout cas, préexister à l'existence de ces personnages, quoi.
Mais je repose ma question, ils sont genrés ? C'est moi qui les ai genrés ? Ou est-ce que vous, dans le livre, vous avez volontairement retiré ?
Ils sont genrés.
Je me suis reposé la question à la fin.
Un des grands thèmes qui parcourt ce roman, c'est aussi la question de la masculinité, de comment ça s'érige.
Donc j'avais bien compris.
Ou comment on devient un homme. Et en fait, Yvan, qui est le grand frère de Max, ou le père de Max, c'est des figures très masculines qui performent un peu le masculin et donc qui ont appris à Max à devenir un homme. Et je crois que la question entre Max et Lou, c'est aussi celle-là, c'est de comment Max a des codes que Lou n'a pas et Lou découvre des codes que Max a. Et donc, en fait, c'est comment tout ça se transmet. Mais effectivement, c'est bien des hommes, pour le coup.
D'accord.
En tout cas, des jeunes adolescents.
J'avais bien compris. Qu'est-ce qui vous intéressait chez eux ? C'est des gens que vous avez connus ? C'est des gens que vous auriez aimé connaître ? C'est une relation que vous auriez peut-être voulu connaître, cette amitié ?
Je crois que le point de départ de ce roman-là, c'est un fait divers. En fait, c'est une suite de faits divers d'un accident, d'un drame qui survient. Et c'est le point de départ de l'écriture. C'est une réaction à la violence, en fait, du traitement médiatique. Donc, de résumer une vie à une ligne et à une fin, finalement, à une mort. Et donc, j'ai construit toute une fiction autour de ce micro-événement, hein, qui est finalement qu'un fait divers. Mais en fait, je voulais ramener du sensible ou quelque part redonner de l'importance à ces personnages. Et en le faisant, j'ai aussi écrit des deux personnages qui coexistent. Et je crois que c'est peut-être des personnages que j'ai pu croiser, ou c'est un collage de gens que je connais, de personnages aussi que j'aurais aimé, avec qui j'aurais aimé passer du temps. Mais en tout cas, oui, c'est des personnages, pour le coup, composés de toutes pièces, ou en tout cas en collage.
Vous êtes aussi photographe et vidéaste. Quel photographe, quoi. Je vous demande un truc impossible, c'est faire une photo à la radio. Wow. Comment vous décririez l'image de la ville où ils habitent, du lieu ?
le cadrage, la lumière, tout ça, c'est très dur. Ce serait entre une photographie documentaire américaine, ce qui est quand même très précis, mais quelque chose.
C'est du noir et blanc, non ?
Non, il y a quand même de la couleur. Ouais. Mais c'est, je dirais, une photographie américaine très frontale et tout ça qui peut quand même exister avec des plans serrés sur des corps, parce que le livre est quand même centré sur Lou et sur le corps de Lou et Max. Ce serait une alternance de plans, en fait. Je pense qu'il y a différentes valeurs de plans. Et puis même la manière que j'ai d'écrire, en tout cas que j'ai eu d'écrire ce roman, c'était un agencement de séquences ensemble, en tout cas de quelque part un peu des plans séquences. Et donc, il y a quand même des changements de valeurs de plans durant les scènes.
Et cette ville où ils habitent ?
Ouais, c'est une ville de Normandie.
Qui existe vraiment, mais vous ne direz pas laquelle, pour faire le bien à personne.
Exactement, pour ne froisser personne. C'est comme Saint-Étienne, quand on en vient, on ne veut pas vraiment le dire.
C'est une
très belle ville. Mais non, en fait, c'est un collage de villes normandes. Hein. Pareil, c'est plusieurs villes normandes, mais en tout cas des villes normandes, une ville normande qui est marquée autant historiquement que socialement d'un passé industriel, mais qui n'est plus vraiment le cas, ou en tout cas qui s'est où le chômage est quand même un peu élevé. Donc c'est un collage de tout ce que j'ai pu retrouver de la Normandie, de plusieurs villes, et notamment il y a aussi un peu du Havre, dans lequel j'ai passé 2 ans au master de création littéraire, du coup, et dans lequel j'ai aussi composé ce roman, ou en tout cas mis en écriture.
Il y avait une envie de parler de ce milieu social qui est peut-être pas toujours au cœur de la littérature française.
Je sais pas si... Je suis pas sûr que...
T'avais voulu créer un roman social ?
Non, ça c'est vraiment pas le cas, parce que je suis pas sociologue, donc là j'ai choisi un territoire de fiction précis quand même, donc, et je crois que la question sociale et économique elle s'infuse dans les personnages, mais cette question-là elle est pas vraiment centrale, enfin je crois qu'elle est là et peu importe...
C'est un peu votre point commun à tous les deux. Mais je trouve que vous aussi la question sociale elle est là, mais elle infuse, mais elle est pas vraiment là.
Bah, comme Eliot le dit très bien, je pense que quand on n'est pas assez... Il y a un peu un renouveau, j'ai l'impression, en tout cas, du discours sociologique, et c'est difficile aujourd'hui de se dire... je trouve qu'en tant qu'auteur, on est là pour raconter des histoires ou mener un récit, mais d'assumer, de dire j'ai fait une cartographie précise d'un truc social, moi, je ne m'en sens pas les épaules. Enfin,
pareil, exactement. Je crois que c'est, c'est assez clair. Mais,
Oui, mais ça vous intéresse de parler de Max, qui vivent, on va dire, dans la France des pavillons, pour être très grossier et peindre ça à la hache. Enfin, peindre avec une hache, c'est plutôt compliqué, mais à très gros traits. C'est cette France qu'on voit finalement assez peu, longtemps on n'a pas vu, qu'on commence à voir plus.
Mais
peut-être.
Je crois qu'on commence à la voir, je sais pas, je pense qu'on l'a un peu toujours vu, mais qu'elle est moins visibilisée dans les rentrées littéraires et dans l'existence des romans. Mais je crois qu'aussi dans une jeune génération, enfin je connais plein d'auteurs qui ont publié des premiers romans, des deuxièmes romans, qui parlent de ces zones géographiques là, de ces zones sociales. Donc je crois que ça existe, mais qu'il faut peut-être aller le chercher, c'est peut-être moins évident, mais oui, ça occupe moins la scène, je dirais, littéraire. Et
puis il y a aussi la manière dont vivent ces jeunes, jeunes, qui ont une vie nocturne à base de bière, très, très importante.
Oui, ils passent le temps, en fait, ils s'ennuient pendant ce long été que eux finissent par trouver quand même un peu long, comme tous les étés de vacances. Mais oui, ils essayent de construire une fiction autour de ce long été pour mieux exister dans le réel. Et je crois que c'est un peu ce qui se passe quand on s'ennuie vraiment, c'est qu'on s'invente plein de choses pour essayer de mieux appréhender, de mieux supporter le réel.
Alors dans votre livre, il y a la violence aussi, la violence des pères. Je pense notamment à cette scène sur la plage où un père tire l'oreille à son enfant.
Ouais, c'est marrant, c'est la première fois qu'on parle de cette scène.
Ah bah elle est très marquante pourtant.
Ok. Ah, c'est la première fois.
Il y a une autre violence, j'ai pas trop envie d'en parler parce que j'ai pas...
Il y a des violences plus évidentes, mais du coup,
même si vous n'êtes pas dans... Ce n'est pas un livre à suspense, mais il y a une autre violence et on la découvre peu à peu.
Oui.
Mais cette scène est presque... Enfin, cette scène du père qui tire l'oreille à son enfant, moi, elle m'a traumatisé. Enfin, je la trouve très dure.
Ben, j'en suis désolé, du coup. c'est que ça a dû marcher quelque part.
J'en ai vu d'autres, rassurez-vous.
J'imagine, mais du coup, il y a une forte présence de la violence, autant chez le père de Max, qu'on découvre très vite, en fait, un père violent. Y a aussi le père de Lou qu'on découvre petit à petit qui est absent, mais qui a été violent. Mais donc c'est Max et Lou font une expérience très différente. J'en parlais au début de ils font une expérience très différente de la violence, et c'est aussi comment eux ils finissent par l'appréhender et comment elle s'ancre aussi en eux, qui sont deux personnages qui sont quand même pas du tout violents. Enfin, Max peut-être un peu plus que Lou, mais effectivement dans cet entourage, je crois que le père qui tire l'oreille à l'enfant est le seul personnage qui est violent en plus des pères, il me semble.
Oui, je pense aussi. Ouais. Mais c'est souvent les hommes qui sont violents. Donc.
C'est souvent les hommes, ouais. C'est malheureux, mais est-ce que c'est étonnant? Je ne suis pas sûr.
Moi, je suis neutre, hein, j'ai pas d'avis. Je vous cite, hein, vous écrivez, on dit des choses qui ont été, mais on dit pas les autres choses, celles qu'on nomme. Enfin, je lis très mal, je suis vraiment désolé. On dit des choses qui ont été, mais on dit pas les autres choses, celles qu'on nomme, pour pas qu'elles deviennent réalité. Alors on dit juste qu'il manque une paire de chaussures dans l'entrée. Pas que son... Enfin bon, je vais pas plus loin parce que je vais pas trop encore trop raconter. Est-ce que là aussi dans ce livre il y a quelque chose que vous ne racontez pas, qui est au centre du livre, qu'on découvre peu à peu? Il y a des choses qu'on ne peut pas écrire, comme il y a des choses qu'on ne peut pas dire.
Bah, je crois que la violence est une des choses qu'on ne peut pas écrire, ou en tout cas il y a des formes de violence qui sont trop violentes pour qu'elles soient écrites. Et donc la manière que j'ai trouvée, ça a été de la décrire par ses contours, par ses restes, par les traces un peu de cette violence. Donc c'est autant des traces sur des corps, mais elle n'est jamais frontalement décrite. En tout cas, quand elle est trop violente, elle n'est jamais frontalement décrite. Et moi, c'est... Enfin, on m'a beaucoup demandé pourquoi il y a pas autant d'ellipses, parce que finalement il n'y en a pas énormément, mais ce qui est passé sous silence, c'est pour moi des choses que je me voyais mal écrire, en tout cas que j'avais du mal à trouver les mots. Donc un peu comme ces personnages qui, au bout d'un moment, Lou comprend que voit des bleus sur le corps de Max, et ils ont un accord un peu tacite entre eux, c'est que quand bien même tout le monde comprend, personne ne dit rien, parce que le dire, ça le ferait exister dans le réel, et ça rendrait toute cette forme de violence réelle. Et je crois que même dans l'écriture, ça a été le même processus de pas arriver à trouver les mots et de pas arriver à décrire des scènes parfois trop violentes.
Mais ce que vous disiez tout à l'heure, que vous étiez parti du fait divers, ce que vous dites pas finalement, c'est ce qui est dans la presse, c'est le fait divers.
Ah, le fait divers était un prétexte pour construire de la fiction.
Oui, mais il n'empêche que c'est ce que vous ne racontez pas.
Oui, complètement. Donc c'est vrai que j'y avais pas pensé.
C'est marrant que c'est ce...
En négatif,
c'est marrant, je sais pas. D'être photographe, hein. mais c'est... Enfin, plus personne ne sait ce que c'est un négatif.
Mais après, je crois que ce texte-là a été un scénario à la base, donc il a eu plein d'étapes. Ça a été une série photo, ensuite une installation vidéo, et ensuite un scénario de fiction qui a été mis en écriture pendant mon master de création littéraire. Donc il a eu plein de vie, et au fur et à mesure, effectivement, dans les réécritures, qu'elles passent par plusieurs médiums, il y a eu des choses qui ont disparu, et notamment le fait divers est devenu, c'est un peu dissous et est devenu au second plan, quand bien même il est passé sous silence, et donc clairement un peu central, parce qu'il est le gros point d'interrogation du roman.
Alors je ne retrouve pas, justement, parce que vous avez parlé d'une série de photos, c'est laquelle? Parce que regardant votre site internet, puisque donc je le redis, vous êtes aussi photographe, il y a une série de photos qui m'a immédiatement fait penser au roman. J'aimerais bien, je ne sais pas si c'est une de celles qui est présentée.
Alors,
donc il y a un titre très paradoxal, et bien sûr, comme je ne numérote pas mes pages, je suis perdu dans mon conducteur.
alors il y en a eu beaucoup, enfin en tout cas la Normandie, c'est un territoire que j'ai beaucoup photographié, donc je ne saurais pas vous dire une précisément, et une qui est sur mon site encore moins. Mais en tout cas, oui, il y a eu une installation... vidéo qui est sur mon site et qui un peu parle de tout ça, en tout cas met des images sur ce récit et préexistait au roman.
Si j'en reviens à votre roman, il y a l'indicible, mais il y a aussi les secrets de Max qu'on découvre.
Oui, après je sais pas si Max est quelqu'un de très secret parce qu'il le voulait. Je crois que ça revient sur la question de à quel point Max et Lou se connaissent très bien mais finalement parlent très peu. Et c'est vrai que dans cette deuxième partie, ou en tout cas après ça, ou après ce drame-là, Lou découvre en quelque sorte quelques secrets ou quelque chose qui était caché et dont Max n'avait jamais parlé. Mais c'est ça, peut-être que c'est une résultante de leur incapacité à se dire frontalement les choses et à mettre des mots sur leur vie, quoi.
J'ai retrouvé le nom de la série, c'est « J'aurais aimé m'en souvenir ». Je trouve que ça colle très bien à ce texte.
Oui,
aussi.
Oui, qui a été fait en... Ouais. Ok.
Il n'y avait pas de rapport à la base?
Pas de rapport à la base.
Bon, c'est moi qui projetais.
Mais ça, quelque part, ça peut résonner, ça.
Alors, on pourrait dire que vous avez un style oral, mais c'est plus compliqué que ça. Vous l'avez beaucoup travaillé, non? Cette fausse oralité.
Cette fausse oralité. Alors, c'est une bonne question. Il y a eu des tentatives à la troisième personne, enfin parce que le scénario de fiction donc préexistait et donc j'avais une structure narrative. Il y a eu des tentatives au départ de le mettre à la troisième personne, ça ne marchait pas. Et à partir du moment où j'ai trouvé cette voix qui finalement est pas si éloignée de la mienne, à partir du moment où j'ai trouvé la voix de Lou, tout de suite il y a eu quelque chose d'assez instinctif et ça a commencé à être fluide, ou en tout cas j'ai trouvé un endroit où moi je pouvais, j'avais un peu mis le wagon sur les rails et ça m'était plus facile de le faire avancer. Mais je sais pas s'il y a eu un... Je suis pas quelqu'un qui retravaille le texte de manière générale en revenant successivement et en essayant d'augmenter ça par couche. Je crois qu'à partir du moment où j'ai trouvé cette langue orale et que à partir du moment où je finis une phrase, je teste à l'oral, mais je crois que le fait d'avoir une écriture orale fait que je sais plus ou moins si ça passe ou si ça casse. Et des fois ça casse et il faut la retravailler pendant longtemps avant que ça passe. Mais
vous avez travaillé comme ça, Guillaume Collet? Parce que vous avez un style très épuré. Enfin, je sais même pas comment. Je serais très embêté pour définir. je trouve pas le mot. Je trouve pas le mot.
Non,
c'est pas
mais
grave.
Non. Moi, je pense qu'on a chacun notre déjà propre rapport à l'écriture, à la phrase, de ce qu'on pense être une phrase, ce qu'on pense être notre rythme. Moi, c'est plutôt en termes de rythme, même de rythme visuel. Moi, j'ai plutôt tendance à partir d'un matériau assez petit, que je vais essayer d'étirer au plus possible, après que je vais resserrer, étirer.
Ah oui, comme une pâte feuilletée.
on peut voir ça, par exemple, mais...
Excusez-moi, j'ai faim.
Non, pas du tout, mais ça serait tout un autre débat. J'ai un passé de dyslexique, donc en fait, je favorise des phrases courtes, des phrases au présent. J'ai des espèces de grandes choses, des phrases que j'arrive à corriger moi-même, déjà, et des phrases adverbales. Et en fait, j'essaye toujours un peu de gagner en vitesse. Toujours cette sensation d'urgence un peu qui taraude. Donc, ce sera un peu comme ça que moi je travaille.
Vous avez tous les deux un rapport à l'image, hein. Je crois que j'ai déjà dit 10 fois, donc je ne vais pas le redire. Est-ce que l'un comme l'autre, vous aimeriez que votre livre devienne des films, des...
Bah oui.
Alors là, oui, c'est la base d'ailleurs. Si
oui,
généreux,
oui,
c'est
je pense que la mise en fiction est plus facile et elle demande moins de ressources en littérature. Mais je crois que l'aventure du cinéma serait vraiment chouette, quoi. En tout cas,
j'ai essayé là.
Je suis pas sûr d'y essayer suffisamment, mais c'est compliqué. Enfin, ça demande de convaincre des gens, ça demande de constituer une équipe. Enfin, c'est une activité qui est beaucoup moins solitaire et même qui est pas du tout solitaire comparé à la littérature. Et c'est ce que j'ai aimé en écrivant ce roman, c'est que il y a une liberté qui est incroyable. Ce que je pense ne pas forcément retrouver au cinéma, à partir du moment où on fait coexister, ou en tout cas exister le projet avec d'autres regards et d'autres personnes.
Moi, j'ai un rapport peut-être un peu plus tracasse avec ça, dans le sens où j'étais aussi scénariste, j'ai travaillé sur quelques séries de dessins animés, donc c'est une autre écriture qui est complètement différente.
Si je ne me trompe pas, ça a été écrit pour Max et Maestro.
Exactement.
Et Grosha et Mr. Beast.
Voilà, encore peut-être Mr. Beast. Canal Plus. Et en fait, moi, j'ai été allé dans l'écriture en me disant c'est ce qui n'est pas du scénario, justement. Avec peut-être un peu un fantasme qui fait très Terminal L, de dire personne n'arrivera à l'adapter jamais, etc. Et tout, mais un peu une volonté de chercher un rythme ou un truc qui est comme faire du... L'écriture, c'est un peu faire du montage, mais dans la tête des gens directement, avec leur propre vitesse, leurs propres images. Donc une fois que j'avais cette idée en tête, ça m'a plu de me dire la littérature va vraiment être autre chose que du cinéma. Mais c'est en tout cas des choses qui m'influencent énormément. Voilà, mon personnage vient du cinéma et appelle à tout réalisateur qui veut s'y frotter avec plaisir.
Un mot du festival court-métrage Nouveau Rêve.
Alors waouh, avec plaisir. Donc en plus on vient d'ouvrir l'appel à films Nouveau Rêve. C'est un festival qui va se faire sa 4e édition. Ça se passe à Saint-Étienne. On est non compétitif. Si vous avez un film entre 10 et 40 minutes qui a été produit dans les 5 dernières années, vous pouvez nous l'envoyer. C'est une sélection vraiment... tous les visionneurs sont très très attentifs. C'est une sélection de petits oignons. On invite... aucun film ne vient seul. Chaque film est présenté soit par son réalisateur, réalisatrice ou un membre de l'équipe. Voilà. Et c'est à Saint-Étienne.
Eh bien, merci. Merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Merci, Eliott Ruffel. Je rappelle, vous êtes l'auteur de « Après ça » aux éditions de l'Olivier. Guillaume Collet, votre livre s'appelle « Les mains pleines » et c'est aux éditions Bourgois. Voilà, c'était La Relève, préparée, présentée par Christophe. La réalisation était assurée par Nina. On se retrouve dans 15 jours. Et puis voilà, vous pouvez retrouver cette émission et toutes les précédentes sur le site de Radio Campus Paris et toutes celles des 7 précédentes saisons. Bonne soirée, à plus tard, au revoir.